么说？Derrière l'idée de préservation des espèces. surtout dans les eaux. Le deuxième compte, c'est le panier à huile, qui campe la surutilisation des essences naturelles sans idée de développement durable. Le troisième compte, le feu et l'eau, indissociables de l'air et de la terre, on est avec les quatre éléments, est une image de la sérénité impossible en dehors de l'interaction entre tous. L'autre compte, c'est les cornes de candate, qui est un coq, et de Dorine, qui est une poule, se trouve plutôt, montre plutôt que la puissance de défense, qui est censée être les cornes, se trouve au niveau des griffes. Je vous invite de résumer succinct des comptes. Pourquoi? Parce qu'ils sont très brefs, il n'y a aucun compte qui va au-delà de 7 pages. Ils sont très brefs, ils sont très digestes, et j'ai l'intention de vous faire acheter le livre. Donc vous allez acheter le livre pour avoir les dédales de l'histoire, de chacune des histoires. L'autre compte qui structure l'attachement à la nature avec des élans écologiques, c'est le compte intitulé « Un couple de signes vertueux ». Ils sont vertueux pourquoi? Parce qu'ils sont très amoureux l'un de l'autre, parce qu'ils le montrent dans leurs ébats en public, et ils ont ce qui manque sûrement à plusieurs, la gestion communautaire de leur compte en banque. Et puis, il y a l'enfant retrouvé, qui montre l'inimitié entre l'animal et l'humain. Le singe vole un petit homme, il le garde sans le blesser. Mais les hommes organisent une battue pour aller chercher le petit homme. Ils tuent le singe et ils ramènent l'enfant. C'est pour ça qu'on va se demander. Les relents écologiques, ils sont paradoxaux, finalement. Ou bien ils ne le sont pas. La question a très vite sa réponse parce que le paradoxe n'en est pas un. Les règnes dans l'écriture de Madame Dier, les règnes ne se mélangent pas. Ils cohabitent aisément. Les êtres vivants, les hommes et les animaux se mélangent chacun en fonction de son règne. C'est ce qu'illustre le conte intitulé « La mésaventure des doux, le rat de ville » qui allait trouver la mort dans la cuisine de Madame Haï. Qu'est-ce qu'il cherchait dans la cuisine? Chacun son lieu d'évolution. Et puis, cela est encore illustré par le fait qu'il y a deux poissons, Nelly et Doug, qui s'aiment éperdument et qui s'attendent jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, le deuxième tableau, celui de la réhumanisation, a une grande tendance didactique et est très structuré autour de la promotion des valeurs immatérielles et autour de la vie de couple. Une vie de couple vacillante, c'est le premier conte qui structure cette partie-là. Quand fut la mort de ma maman Safaria, pour avoir refusé le pardon à son époux, papa Théo, le milieu marital s'est retrouvé, le milieu matrimonial s'est retrouvé dans toutes sortes d'incompatibilités. Et puis, il y a le conte intitulé « La communogamie ». Avec toute une suite, mais je m'arrête au mot communogamie. La communogamie campe l'égoïsme masculin. L'homme était avec son épouse, et il a réussi à aller chercher une amante, son épouse a avalé, elle l'a même laissé en prendre 7, et finalement ça ne lui a pas suffi, il lui en a fallu encore après. Et dans cette grande caricature, consacre l'égoïsme masculin. Et par un effet de métapsychose, guérison du mal par le mal, suggère la sobriété. Et puis, il y a l'éducation des enfants, c'est l'autre compte, qui récrimine les dérives de la monoparentalité. Il faut aller lire le texte. Une fête du 8 mars, pas comme les autres, réinstalle l'homme dans son rôle traditionnel et le repositionne, je préfère le mot, comme instance décisionnelle finale dans sa maison. Donc, on ne va pas aller faire ce qu'on veut le 8 mars. Et puis, il y a le conte intitulé « La mort du papa Simon ». Papa Simon choisit de sauver son épouse d'une attaque de malfrats, mais il reste se donner en holocauste parce qu'il refuse de donner son argent. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut aller le prendre pour pouvoir voir la chute extrêmement bien élaborée par l'auteur qui finit par apprendre au lecteur qu'il est mieux de ne pas sacrifier sa vie pour l'argent. Il faut ménager la chair et le chou. Et puis, les petits lungols. Et donc, c'est le premier conte du recueil, mais qui rentre dans la mouvance de la stabilisation dans les foyers. C'est un conte d'origine, un conte des origines qui indique comment le village, l'État, par ça, a trouvé son appellation et comment les noms dans ce village ont commencé à être attribués. La particularité de le Tsvelungol, c'est qu'il est très protecteur avec sa compagne, qu'il a réussi à pêcher qu'un seul silure, mais ce silure lui suffit amplement. Et M. Leti la protège des railleries de ses compagnes, parce qu'elle, elle a réussi d'avoir un seul silure, maintenant que les autres en ont plusieurs. Le plus important, c'est le contentement de son compagnon. Et c'est la protection qu'il apporte. Dans la même veine de la protection de la famille, de la consécration du couple, il y a le conte Les secrets de famille qui ne sont pas rompus jusqu'à la mort. Tout à ce que ce soit propre ou pas propre, mais le secret de famille, on ne le rompt pas. Alors, il y a tout un socle granitique de la société qui a cet empire. La famille semble très très chère à l'écriture de l'auteur. On peut s'intéresser à d'autres choses après que la famille a été stabilisée. Et quand on s'intéresse à autre chose, la première qui nous tombe sous la main, c'est le cœur d'une mère, c'est notre compte, le cœur d'une mère qui déborde de miséricorde au même titre que le cœur de Dieu. L'enfant s'est comporté de la pire des façons, il lisait les textes de courir, mais le cœur de la mère réussit à lui pardonner, même outre-tombe, et continue de plaider pour l'enfant, même outre-tombe. À côté, il y a la frontière, que le grand exécuté la frontière, que l'auteur tend beaucoup récriminer l'idée de la possession, et donc de l'absence de partage, de l'absence de générosité et de clivage entre les gens. L'idée de possession est mise en relief par l'articulation qui est le pont entre tout. Parce que sans articulation, on est en manque de repères, en manque de relations avec les autres. Il y a les deux derniers contes de cette veine. L'un s'intitule Le démon de la rancœur, l'autre Le rire, une thérapie gracieuse, et les deux contes visitent le pouvoir du pardon et du rire comme thérapie pour l'éclat physique et l'éclat de l'âme. Donc, dans le dernier tableau, il y a trois contes. Il y a des voix dans les pouvoirs, c'est le procédé d'incitation et de résistance à l'occultisme. Les dents de la poule qui envisagent le caractère non nécessaire des manipulations génétiques liées à la science. Parce que cela s'oppose à Dieu, cela s'oppose à la nature. Et puis, il y a le dernier conte, un visiteur non corrompu, qui signe le caractère imparable de la fatalité agissante, la mort, que vous le vouliez ou non, vous y passez. Donc, quand on a fini de lire le livre de Madame J. Obama-Nicoy, les sujets qui sont abordés sans être exhaustifs sont les suivants. L'altruisme, la sobriété, le pardon, le discernement, la solidarité, l'harmonie amoureuse. Mais ce serait tout bénéf. Comment je perçois Histoire de vie? Je perçois Histoire de vie comme un petit traité d'encouragement à l'intégrité et à la paix intérieure. Peut-être de dire au Bambico, et sinon un prétexte, du moins, une participation au sauvetage du radar moral ambiant. Il suggère une redécouverte des bienfaits immédiats. Il y a dans un de ses contes une image du palmier qui produit l'huile, qui produit le lait blanc, qui a un porteur sur la rivière dans le village et qui donne des noix. Et le palmiste aussi, qui sont utilisés pour et donc, ce qui est suggéré, c'est la reconsidération de la quotidienneté avec ses beautés. Et puis, il y a un repositionnement des dispositions traditionnelles dans le couple que l'auteur valorise. Les contes, dans ce recueil de contes, sont spatialement ancrés. C'est-à-dire que vous allez retrouver des éléments qui vous permettent de savoir où est-ce que l'histoire se déroule. Quelqu'un va aller au ministère des Finances, c'est comme ça que ça s'appelle, mais maintenant, elle n'a pas travesti. Donc on va retrouver des noms comme Bantomo et autres, ce n'est pas travesti, donc cela participe de la vivification de la lecture. Et donc, cela participe de ce que les autres ont appelé la novita. Et je vais faire grâce de toutes les théories qui ont cours, parce que ce n'est pas ça l'objectif ici. Donc, la particularité de son écriture, la particularité de son texte, réside sûrement dans le choix des personnages et des motifs de l'écriture. Au sujet des personnages, il a mis en scène des animaux relativement marginaux. Pourquoi je dis relativement marginaux? Parce que dans la nomenclature des contes, au Cameroun et en Afrique, il y a des têtes de proue, hein, coup de la tortue, la panthère, ainsi de suite. Ce ne sont pas les personnages qui sont campés dans les livres histoire des livres. Ce sont des oiseaux, prioritairement. Ce sont des poissons. Difficilement, on les retrouve dans les contes, même dans les contes, si on prend par exemple les contes de Charles Perrault, Alexandre Léon, ce ne sont pas les poissons qu'on va retrouver là-bas. Mais c'est surtout l'utilisation de ces animaux marginaux avec des noms humains qui attirent l'attention. Et donc, qui participe de l'esthétique de Thérèse Idéo-Bambico dans ce recueil de contes. Au-delà, ce sont des êtres humains. Les contes portent sur des êtres humains qui sont clairement nommés à côté de ces animaux marginaux qui sont convoqués. Au sujet de l'écriture, la qualité de l'écriture, quatre contes sont identifiables grâce aux formules traditionnelles du conte. Les procédés d'insertion des dialogues déjouent les canons de l'apparence, c'est-à-dire que la manière dont les dialogues sont intégrés dans le texte ne sont pas la manière dont les dialogues sont intégrés n'est pas celle qu'on a l'habitude de rencontrer de façon ordinaire, de façon traditionnelle dans l'insertion de dialogues à l'intérieur du texte narratif. Et donc, le récit est au service de la leçon finale et non l'inverse. C'est-à-dire que l'auteur a une idée dans la tête et elle voudrait que cette idée passe. Et elle utilise le récit comme prétexte pour que l'idée passe et non l'inverse. Dans la littérature camerounaise, on distingue les sémantistes et c'est monsieur l'éditeur qui en est un virtuose de la critique qui veut bien nous en dire. Il dit qu'il y a des gens qui choisissent de travailler sur le texte pour la beauté du texte et il y en a qui choisissent de travailler sur le texte pour le sens que le texte aura. Et l'auteur a fait le choix de ce dernier groupe, c'est-à-dire l'écriture lui sert à participer à une œuvre d'architecture du développement humain, du point de vue moral et culturel. Donc, maintenant, ce choix esthétique qui déjoue les canons traditionnels, est-ce qu'il est conscient, est-ce qu'il n'est pas conscient? Il fera querelle. Et c'est cette querelle qui est la présence originale de l'auteur dans la sphère de la littérature. Parce que oui, pour le grand public, il y a le sens, mais pour les consommateurs attitrés de la littérature, il y a le positionnement dans l'échiquier de la critique, dans l'échiquier de l'esthétique d'une nation, et c'est là que toute la place de madame se fera, à mon sens, et la querelle suivra son chemin. Donc, il y a deux phrases qui ont retenu mon attention dans le livre de madame Ndié-Obambité. Je vous les cite. C'est qu'aucun ne veut comprendre que la gazelle souffre d'être solitaire, que les limites du cerf sont la réponse à un ennui profond. Nous sommes à la page 22. Ensuite, les humains aiment les expressions telles que « ma »,« mon », »,« mais », »,« moi ». Et lorsque ces humains chasseront de leur langage ces expressions, la vie sera meilleure sur la terre. Page 39. Voilà. Lisez le livre. Il est agréable parce qu'il s'adresse à tous les âges. Pour les tout-petits, il y a des illustrations à l'intérieur qui leur permettent de chercher à comprendre le texte à partir des illustrations. Et la langue, elle digeste, elle est très accessible. Et c'est un agréable festin qui nous attend en lisant Histoire de vie. Voilà, je vous remercie.